Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Aujourd'hui, nous nous trouvons face à un des deux grands dogmes fondamentaux de l'Église. C'est celui de la Sainte Trinité, un Dieu unique en trois personnes. Le dogme, c'est une formulation particulière qui sert à préserver le mystère qu'il énonce. Et il est basé sur l'énoncé de deux vérités apparemment incohérentes et antinomiques pour notre cerveau rationnel. Mais peut-être aussi que la formulation est mal choisie et que les mots utilisés aujourd'hui ne traduisent pas l'idée initiale que l'on trouve dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Trinité pour un chrétien orthodoxe ? Souvent, pour un musulman, nous sommes des blasphémateurs. Nous professons et adorons trois dieux. À leurs yeux, notre foi n'est plus du monothéisme, mais du triéisme. Le mot français « trinité » vient du latin « trinitas », qui signifie la réunion de trois, un groupe de trois. Mais de trois quoi ? Trois natures, trois personnes, trois hypostases, trois formes, trois faces, trois propriétés, trois volontés. Lorsque nous parlons du Christ, nous parlons de ces deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et pourtant, l'union de ces deux natures est si intime que le Christ est un. Il est une seule hypostase, une seule personne, et non deux personnes distinctes. Le mot « Père » que nous appliquons à Dieu a signifié dans la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament en grec le Créateur. Celui qui donne l'être, qui donne la vie, qui donne de quoi vivre. C'est quelqu'un qui apparaît d'ailleurs avec un caractère bien trempé et qui le fait savoir. Mais c'est un être invisible, indéfinissable, indéfinissable, mais cependant personnel et relationnel. Pour le Christ, lorsqu'il parle du Père, de son Père, il introduit une notion bien concrète aussi, de relation privilégiée entre eux, une relation de filiation, concrète, palpable. Pierre et Paul et d'autres disciples appelaient le Christ le Fils de Dieu. Pour saint Jean, dans sa première épître, c'est quelqu'un de bien concret. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Aujourd'hui, nous dirons que c'est une personne. L'Esprit-Saint, lui, se manifeste aussi d'une manière concrète, dès le début de l'Église, dans les communautés chrétiennes. Il donne des dons aux apôtres. L'Esprit-Saint a parlé aussi par les prophètes hébreux avant l'avènement du Christ. L'Esprit-Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui modèle, qui pétrit les âmes, les intelligences des hommes. Voici ainsi trois réalités objectives qui ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu, car Dieu est unique. Les trois, Dieu le Père, le Christ, l'Esprit Saint, sont un seul et même Dieu. Et cependant, il y a trois objets, dirions-nous, pour la pensée humaine. Et pour les premières communautés de chrétiens, cela pourtant devait être très clair. Et puis est venue une autre notion, la notion de logos, le logos de Dieu, la parole de Dieu, et ça indépendamment de l'incarnation. C'est une relation peut-être un peu plus abstraite qui existe alors entre Dieu et son logos, sa sagesse, sa pensée créatrice. C'est plus, dirions-nous, métaphysique. Les relations qui existent en Dieu, entre Dieu et sa pensée, sa parole, sa sagesse, sont analogues à celles qui existent en nous entre le moi, le sujet pensant, et notre propre pensée, notre propre sagesse, notre propre parole. Dans la vision plus concrète du Christ, le Fils de Dieu, les pères du Concile de Nicée ont vu une relation divine. Le Fils de Dieu n'est pas créé. Ce qui est créé en lui, C'est ce que les pères ont appelé sa nature humaine. Dans la vision plus abstraite, si l'on entend par Fils de Dieu le Logos lui-même avant l'incarnation, alors le Logos de Dieu n'est pas quelque chose d'autre que Dieu. Ce n'est pas un être créé non plus. C'est Dieu qui s'exprime. C'est la pensée divine de Dieu, issue de la divinité de Dieu, générée de Dieu, engendrée de Dieu. Aujourd'hui, nous disons en langage courant que la Trinité, c'est Dieu en trois personnes. Et le terme de personne dans la langue française contemporaine désigne un être pourvu de conscience, de liberté, d'autonomie, de volonté propre et indépendante. Alors que le mot grec prosopone se décompose en pro, qui veut dire vers, dans la direction de, et ops, qui est la vue, le visage. Le prosopone, c'est ce que l'on regarde, ce que l'on envisage, c'est la face, c'est la figure. Par extension aussi, c'est devenu le masque de théâtre, et par la suite même, ça a été le rôle, le personnage du théâtre. Et c'est ainsi qu'on en est venu au sens de personne. Le terme grec prosopone a fini ainsi par désigner un personnage ou une personne, un être concret comme Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament grec, prosopone signifiait le visage, car il traduisait le plus souvent l'hébreu panim, qui signifie la face, la figure. Panim dérive du verbe pana, qui signifie se tourner vers, s'approcher d'eux. En latin, persona évoque le verbe personare, qui veut dire résonner, retentir, faire du bruit. Mais là aussi, ça s'est dévié en devenant aussi le masque de l'acteur, à travers lequel passe le son, passe la voix. Et puis, par extension, c'est devenu aussi le rôle, le personnage. Ainsi, persona rejoint prosopone. Mais le mot latin persona s'est traduit aussi par personne. Et la difficulté est venue lorsqu'on a voulu aussi exprimer par ces mots le logos de Dieu, avant et indépendant de son incarnation, et l'esprit de Dieu, comme présent depuis l'éternité, celui qui planait sur les cieux dans la Genèse. Le sens primitif s'est ainsi édulcoré dans la traduction latine et encore plus dans le français avec personne, qui n'a maintenant plus jamais le sens de face ou de visage ou de figure. Là où les chrétiens de langue grecque disaient « il y a en Dieu trois visages ou trois faces », leurs frères de langue latine et nous aussi, nous disons « il y a en Dieu trois personnes ». Pour les premières générations chrétiennes, cela signifiait « Dieu est un seul être qui se présente selon les circonstances sous trois aspects ou figures différentes, suivant trois voies, trois manières d'être ». C'était du concret. Il y avait Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, appelé aussi le Père de toutes choses, le Christ, Jésus de Nazareth, qui appelle Dieu son Père et qui se dit comme le Fils de Dieu par nature, parce qu'il est avec Dieu dans une relation spéciale, une relation de filiation. Le Christ en lui par nature, la puissance de Dieu pour guérir, et la sagesse et la science de Dieu pour enseigner. L'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, c'est le troisième, celui qui s'est manifesté en enseignant les prophètes, et qui continue de se manifester en donnant la science, l'intelligence, la force, l'amour, la foi, l'espérance, la crainte de Dieu. Voilà les trois que les communautés chrétiennes connaissaient. Et ces trois ne sont pas trois dieux, mais un seul et unique Dieu, qui est à la fois et qui se présente comme Père, Fils et Esprit Saint. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen. Amen.